Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Nous revoici en direct d'Aix-en-Provence pour les 22e rencontres économiques organisées par le Cercle des économistes et présidées par Jean-Hervé Lorenzi qui est avec nous aujourd'hui. Anne-Sophie Alsif également, chef économiste du cabinet d'audit BDO France et Lionel Fontanier. Il est membre du Cercle des économistes et professeur à l'École d'économie de Paris. Monétaire, budgétaire ou les deux, Jean-Hervé Lorenzi ?
Les deux, évidemment. Je vais vous faire une prévision.
Un peu plus près le micro.
Je vais vous faire une prévision qui, évidemment, se révélera, comme toutes les prévisions d'économistes, assez inexacte dans la réalité. Je ne crois pas.
Quelle honnêteté intellectuelle remarquable.
Je ne crois pas. Je crois qu'il y aura des discours extrêmement durs des banquiers centraux. Je ne crois pas qu'ils iront à leur terme. Je n'y crois pas. Parce que c'est.
Dur dans les mots, doux dans les actes.
Exactement. Ouais, donc, la schizophrénie est une maladie très répandue. Et je crois qu'il y aura une politique budgétaire qui nous mènera. Qui est un quoi qu'il en coûte, et comme ça va pas durer 11 mois et 28 jours, mais que ça risque de durer un peu plus longtemps, je crois que le quoi qu'il en coûte va durer. La question est double à ce moment-là. Si c'est ça qui arrive, il faut absolument quand même que le système des services publics, et on va parler d'éducation, quand même se rétablisse, parce que c'est fondamental à ce moment-là. Quitte à ce qu'on mette de l'argent, il faut vraiment que ça fonctionne pour le système de santé, le système d'éducation. Et puis, il faut arriver, ce que Anne-Sophie a dit à juste titre, cibler, arrêter ces mesures générales qui n'ont finalement aucun impact, si ce n'est de faire des mécontents. Or, dans notre pays, il ne vous a pas échappé que c'est une maladie assez répandue.
Bruno Le Maire nous a dit qu'il y avait la moitié des actifs qui allaient bénéficier des principales mesures. Il s'est engagé à ce que plus aucun fonctionnaire ne soit smicard à la suite de la revalorisation du point d'indice de 3,5%, 7 milliards d'euros, 7 milliards et demi d'euros au passage. Et il s'est engagé à ce que le pouvoir d'achat soit positif en 2022, plus 0,5%. L'INSEE était sur moins 0,6. Je vois François Villeroy de Gallo de la Banque de France nous dire ce matin ce sera moins 1% en 2022. Ce n'est pas exactement la même donne. Et encore, on ne parle que de moyenne. Alors revenons à cette politique de l'offre, Lionel Fontanier. Moi, les questions d'éducation et d'enseignement me passionnent. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Comment vous voyez l'histoire ?
Alors, je voudrais quand même revenir d'un mot sur le débat précédent, si vous me le permettez, sur cette question de la multiplicité des mesures ou du chèque. Voilà. Donc il y a une dimension d'économie politique qui n'a échappé à personne, c'est qu'il va falloir discuter avec les parlementaires de ce paquet. Et donc quand on a un paquet avec une longue liste de mesures, ça permet une discussion plus facile que si on discute juste du montant du chèque, ça ne vous a pas échappé. Donc sinon, la mesure de Jean-Hervé est bien meilleure. Mais quand il s'agit de discuter au Parlement, je ne suis pas sûr que ce soit aussi facile. Enfin, je ne suis pas politologue, je suis économiste, donc je laisse ça à votre sagacité. Alors, au sein de ces mesures, il y en a quand même une qui est très, très importante et qui doit faire réfléchir sur la politique économique de façon plus générale en France et sur un aspect de l'éducation qui n'est pas l'enseignement. C'est faire comprendre donc aux consommateurs les enjeux de la transition énergétique et le fait qu'il y a un sujet avec les automobiles particulières et qui est un sujet difficile puisque ceux qui ont besoin de leur automobile, ce n'est pas les cadres parisiens qui habitent dans le centre de Paris, c'est des infirmiers, etc., qui habitent dans des zones rurales et qui ont besoin de leur véhicule pour se déplacer. Et pour eux, l'essence à 2 euros avec des voitures qui ne sont pas du tout efficientes énergétiquement parce que ce sont de vieilles voitures, c'est une catastrophe en matière de pouvoir d'achat. Et là, il y a un vrai sujet. Et donc, ce sujet, on peut le traiter de différentes façons. On peut envoyer des chèques de compensation de l'essence. On peut subventionner l'essence, ce qui est un peu moins efficace. Et on peut aussi, ça a été évoqué, donc aider ces personnes à acquérir des véhicules qui sont moins polluants, éventuellement des véhicules électriques, mais il y a d'autres solutions, pour pour assurer le coût de la transition énergétique, pour compenser le coût de la transition énergétique pour ceux qui n'ont pas les moyens de se la payer. Et, mais pour ce faire, il faut annoncer une vision claire sur où va-t-on dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. Ce n'est pas la peine de continuer à, de dire aux consommateurs que l'essence va revenir à 1,50 € de façon durable. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas quelque chose qui sera possible. Donc, il faut s'organiser pour permettre aux revenus les plus modestes et pour ceux qui ont le plus besoin de leur véhicule particulier parce qu'il n'y a pas de solution de transport en commun, d'acquérir des véhicules de différents. Voilà, donc ça c'était quand même le point sur...
Il y a une redistribution du surcoût de l'énergie pour les vraies victimes de ce phénomène.
Mais comment fait-on ? Enfin, la mesure idéale envisagée par les économistes, on la connaît depuis longtemps. Il faut taxer l'énergie et prendre le produit de cette taxe pour subventionner ceux qui ont besoin de... voilà.
La taxe pigouvienne.
Donc, c'est aussi simple que ça. C'est difficile à mettre en œuvre, mais c'est aussi simple que ça. Alors, donc ça, c'est sur le paquet de mesures. Alors, je reviens maintenant sur la question que vous m'avez posée. Sur l'enseignement. Qu'est-ce qu'il faut faire avec l'enseignement ? Donc, je crois qu'il y a une chose à faire tout de suite, c'est déclarer que c'est une priorité nationale.
Bonne idée.
Donc, c'est une priorité nationale qu'il faut afficher comme telle. Donc, il y a tout un ensemble de choses à faire. Il faut mettre de l'argent sur la table. Donc, quitte à mettre 10 milliards, 20 milliards par-ci, par-là, on pourrait en mettre 10 ou 20.
Vous êtes sûr qu'il faut nous faire le coup des moyens, Lionel ?
Alors, non, mais attendez, je n'ai pas fini. Et donc, ensuite, il faut réfléchir sur comment ces moyens sont utilisés de la façon la plus efficace. Et donc, là, il y a 2 aspects qui sont importants. Si on réfléchit à l'école, et ça, c'est un débat dont je ne suis pas expert, mais qui a déjà eu lieu, il faut évidemment utiliser l'euro marginal, le dernier euro qu'on va distribuer, il faut l'utiliser là où c'est le plus efficace. Et là où c'est le plus efficace, c'est dans des zones héritées, c'est dans des classes surchargées, c'est dans la petite enfance. Donc les spécialistes de l'éducation savent bien où 1 euro dépensé dans l'éducation est très efficace. Et donc il faut repartir de ces prémices et augmenter les moyens là où c'est nécessaire, puisque chacun le sait, donc c'est la petite école au fond qui décide de beaucoup de choses par la suite. Donc ça, c'est une partie de l'histoire. Je n'ai pas fini. J'ai encore deux éléments, puisque nous avons un petit peu de temps et que vous avez plaisir à m'écouter. Donc le deuxième élément, c'est quand on arrive à un niveau de l'université, des IUT, des grandes écoles, etc. Donc il y a un certain nombre de choses qui marchent bien. Il y a un certain nombre de réformes qui ont été faites pour regrouper des établissements. Tout le monde connaît bien tout cela. Puis il y a un certain nombre de choses qui marchent moins bien, éventuellement dans des universités. Et donc dans les universités, je pense que c'est pas uniquement une question de moyens qui se pose, c'est aussi une question de gouvernance. Et donc il faut réfléchir à la gouvernance de cet ensemble. C'est un sujet très compliqué.
Autonomie, c'est votre idée ?
Alors les universités sont autonomes, mais en partie seulement. Donc ça, c'est une solution très française. Normalement, une porte est ouverte ou fermée, mais là, elle est à moitié ouverte ou à moitié fermée. Donc les universités ont l'autonomie pour l'utilisation de leur budget, mais ça n'est pas une autonomie complète. Par exemple, elle ne fixe pas les droits d'inscription, et ça, je sais que c'est une bombe à laquelle on ne peut pas toucher. Il n'est pas question de dire ce matin que je suggère d'augmenter les droits d'inscription à l'université. Je vais pouvoir passer la porte de mon université la semaine prochaine. Mais il y a vraiment un sujet sur une plus grande autonomie des universités en matière de design, de leur formation, de proximité avec les milieux professionnels.
De recrutement.
Et de recrutement. Et aussi, qu'en termes de recrutement, ça s'est beaucoup amélioré et les procédures ont été beaucoup simplifié par rapport à une époque que Jean-Hervé et moi-même avons connue, qui était l'époque des héros quand même. Hein, mais maintenant, on est dans un autre monde qui est plus facile. Donc, il faut aussi que les universités puissent s'adapter à l'environnement, être plus réactives. Enfin, il y a des mots plus à la mode que réactifs pour dire agile, on dit maintenant. Hein, voilà. Et donc, tout ça, ça veut dire qu'il faut réformer un petit peu les universités et continuer à leur donner plus d'autonomie. Et puis, il y a un troisième étage à la fusée, et j'en aurai fini, et je vous vois soulagé. Le troisième étage de la fusée, c'est...
Je suis passionné, parce que je pense que c'est le problème économique numéro 1 du pays.
C'est la formation tout au long de la vie. Et donc la formation tout au long de la vie, le troisième étage de la fusée, il y a deux satellites dedans. Donc le premier satellite, c'est redonner une chance à ceux qui n'ont pas eu la chance, comme Jean-Hervé et moi, d'étudier de bonne façon quand on était jeunes, brillants, etc. Donc c'est ça qui nous a porté le reste de la vie. On a eu cette rente d'avoir été bon à un moment, et puis après, tout le monde a considéré qu'on était bon tout le temps.
Oui, non, je vous écoute.
Voilà. Donc,
oui,
c'est une rente par rapport aux gens de notre génération qui n'ont pas eu la chance d'avoir à ce moment-là l'éducation qu'il fallait, d'entrer dans les bonnes filières, etc. Donc il faut redonner une deuxième chance à ceux qui n'ont pas eu leur première chance. Et moi, j'ai toujours été partisan de quelque chose qui là aussi est très simple sur le papier, qui est de dire chaque jeune Français a un chèque éducation à utiliser de la façon qu'il veut, à l'horizon qu'il veut, quand il veut. Et donc ce chèque doit être assez élevé parce que l'éducation...
Oui, j'allais vous demander si vous aviez un montant en tête.
Voilà. Donc si je vous disais combien coûte un étudiant dans l'université, vous seriez affolé. Donc le chèque est assez élevé. Mais donc ça, c'est la première chose à faire. Les écoles de la deuxième chance y participent. Enfin, il y a plein d'initiatives qui peuvent être prises. C'est vraiment quelque chose de très important pour éviter le décrochement définitif dans les banlieues. Il y a des tonnes de jeunes qui sont très doués et dont il faut savoir révéler les talents et donc mettre ses talents en œuvre. Et donc j'ai dit qu'il y avait un deuxième satellite. Le deuxième satellite, il est connu de tout le monde. C'est la formation tout au long de la vie pour ceux qui sont déjà en insertion professionnelle, dont il faut améliorer les compétences, parce que vous le voyez, comme chacun d'entre nous, les technologies autour de nous vont très vite, et comme tout à chacun, on consacre une partie de notre temps, soit que c'est prévu par l'employeur, soit qu'on le fait sur le week-end, pour essayer de s'adapter à ces nouvelles technologies et de ne pas laisser passer le train. Eh bien, il faut s'organiser pour qu'au niveau de l'ensemble de la population active, ce soit vrai. Et c'est particulièrement vrai, et c'est en cours un petit peu, mais il faut renforcer ça dans l'administration française. Dans l'administration française, on a fait d'énormes progrès en matière d'administration électronique. Je vous prie d'aller voir dans quelques pays autour de nous, c'est bien pire.
Ça marche très bien aux impôts, c'est vrai.
Et donc, il y a encore beaucoup de choses qui peuvent être faites, mais pour que ça soit fait, il faut que les personnels soient formés. Donc, c'est pas juste s'assurer que tous les fonctionnaires aient plus que le SMIC. Il faut s'assurer que tous les fonctionnaires, comme tous les autres, sur le marché du travail et dans leur boîte à outils, les bons outils pour faire face à cette évolution technologique qui va très vite.
Un ange passe. Anne-Sophie, Jean-Hervé. Merci Lionel pour l'exposé. Voilà, ça fait tellement de bien de temps en temps. Et ce que vous venez de dire est chargé d'optimisme malgré tout.
Pour compléter, je pense qu'il est aussi très important de parler, on l'a dit, en effet, toutes ces priorités, mettre le paquet sur la petite enfance et les premières classes, où en effet, on voit qu'il y a eu un décrochage. C'est vraiment sur les métiers d'avenir et sur les sciences et sur la technique. Le problème, à mon sens, c'est qu'on fait beaucoup de plans, réindustrialiser, en effet, attirer les batteries, les plans de demain, etc. Tous ces plans sont assez cloisonnés et sont en général assez sectoriels. Et ces plans ne sont pas forcément accompagnés de, dans 10-20 ans, quelles seront la demande dans ces métiers et donc maintenant quels métiers il faut mettre en place. Et un petit peu c'est très bien. Exactement.
On voit que les compétences sont là,
comme la Chine ou d'autres pays comme ça font ce genre de choses. On a un petit peu eu ça avec le code en disant voilà, il y aura vraiment un grand besoin d'informaticiens, donc il faut quand même créer des écoles. Mais en tout cas, c'est quelque chose à mon sens qui est pas du tout assez développé, qu'on essaie de faire un peu avec l'apprentissage en disant oui, là on va essayer vraiment de le lier avec les secteurs et les métiers de demain, mais il faut quand même être clair qu'il y a des métiers qui vont être détruits et que l'idée c'est d'en créer de nouveaux à forte valeur ajoutée et de se positionner sur ces niveaux de gamme là, pas créer forcément dans tout azimut, dans tous les secteurs. Donc la formation, bien évidemment tous ces points là, mais en plus ça, parce qu'à mon sens c'est un point anti-fondamental pour tous les plans de réindustrialisation, de plans économiques, de planification à moyen long terme, si on n'a pas cette vision sur la compétence qui accompagne. Et très souvent à mon sens, on fait ces plans en disant il faut créer les batteries de demain, ben oui, mais on n'a personne qui est spécialiste des batteries ou qui sait, ou donc à ce moment-là, il faut faire appel à d'autres compétences. Donc ça va vraiment ensemble. Le problème, ça veut dire faire de la prospective, avoir une vision sur 10-20 ans et engager maintenant les moyens pour pouvoir former à moyen long terme. Donc là, c'est toujours très compliqué parce que on sait, il y a souvent d'autres prérogatives politiques qui peuvent intervenir.
Celui qui est actuellement aux affaires ne bénéficiera pas du gain politique d'ici au prix aujourd'hui.
Exactement. Donc c'est ça qui est assez compliqué. Et donc, à mon sens, c'est un peu un totem de l'apprentissage, de la formation, en disant regardez, là, en effet, les étudiants sont plus intégrés dans l'entreprise, ont des contrats, sont aussi un peu mieux payés. Donc ça fonctionne, mais sans forcément avoir une vision stratégique que quels sont ces métiers de demain. Et on parle beaucoup de souveraineté, d'indépendance industrielle. Là aussi, c'est tout à fait fondamental parce que si on a la technologie, il faudra aussi avoir les personnes qui travaillent dedans. Et donc, ne pas forcément demander de l'extérieur. On sait tous les problèmes de transfert de technologie qu'on a pu avoir, notamment avec la Chine. Et c'est ce qu'ils faisaient. Vous arriviez en Chine, bien évidemment, signer les contrats. Mais la première chose qu'on voulait, c'est avoir le transfert de technologie pour pouvoir faire les ingénieurs. Et l'autre élément, c'est vraiment sur les revenus. Qu'est-ce qu'on voit ? Étant donné que dans demain, on aura une polarisation science, technique versus service et on va dire haute qualification, vous allez avoir une forte dichotomie des revenus par rapport aux ingénieurs, par rapport aux personnes qui maîtrisent les data, qui maîtrisent les données, par rapport aux autres secteurs pour des études équivalentes. Et ça, vous aurez vraiment cette accentuation qui va vraiment se développer et qui créera des inégalités salariales assez importantes, comme on peut le voir hein, depuis 10 ans dans ces métiers techniques. Donc ça aussi, c'est très important de l'avoir en tête.
Je sais pas où la solution. Je comprends le problème, je ne sais pas où est la solution.
Concernant les inégalités, et ce sera vraiment des polarisations du marché du travail qui sont vraiment importantes et qui devront être traitées. Et aussi, quid pour le travail des femmes qui sont moins souvent dans ces métiers scientifiques et techniques, ça peut être aussi un facteur de reproduction des inégalités salariales à moyen long terme.
Vous avez vu comment on avance depuis le début de notre émission. Il y a un exemple très concret, et je vous donne la parole, Jean-Ravel Lorenzi, parce que j'ai le logement aussi là dans
oui,
dans
c'est de ça dont je vais parler.
Mais. Il y a eu un exemple très concret, Flamanville, vous voyez l'histoire de Flamanville. Bon, on est, je ne sais plus, à 10-12 ans de retard, on a multiplié par 4 le budget. Et en fait, le retard s'est considérablement accentué pendant Covid. Et vous vous souvenez le rapport de Jean-Martin Fols qui avait audité Flamanville. Pourquoi en sommes-nous là ? La principale conclusion, c'était nous avons perdu les compétences dans ce domaine. Et en fait, les ingénieurs du nucléaire des années 70 sont partis à la retraite sans transmettre le savoir. Eh bien, le retard s'est considérablement accumulé pendant la période chaude de Covid. Parce que les compétences que nous avions l'habitude de faire venir sur le sol français ne pouvaient plus prendre l'avion, ne pouvaient plus se déplacer, car le monde était confiné. Et tout a été tanké par l'absence de compétences nationales dans ces domaines pourtant clés. Jean Hervé.
Alors, je voudrais... j'ai rien à rajouter. Mes deux camarades sont exceptionnels.
Exceptionnels.
Mais je voudrais juste qu'on ne se quitte pas sans parler de logement.
Absolument. C'était mon point suivant.
C'est le deuxième sujet. Alors, c'est absolument majeur. C'est majeur parce que c'est la grande inégalité intergénérationnelle. Un gamin, aujourd'hui, ça coûte des fortunes d'éventuellement acquérir un logement, etc. Tout ça est le diagnostic. Quel est le problème ? Le problème, c'est qu'on a donné la main définitive aux maires, et comme les maires sont des êtres humains comme tout le monde, ils pensent à leur réélection, et leur réélection consiste à bien maîtriser la population qui fait partie qui loge dans dans leur cité. Et donc, je crois qu'il faut faire deux choses. La première, c'est considérer que c'est la deuxième priorité. Le deuxième, il y a plusieurs millions de Français qui sont très mal logés, etc. Deuxième priorité, en ne se contentant pas uniquement de parler des passoires thermiques, il y a aussi des gens qui sont, par ailleurs, qui n'ont pas de logement, ou qui sont à des kilomètres et des kilomètres. Donc, premier aspect, avoir un système de bonus-malus vis-à-vis des maires qui les rendent raisonnables.
Celui qui libère du foncier est aidé, celui qui n'en libère pas est sanctionné.
Mais vraiment, pas la
clé
aujourd'hui qui revient à dire qu'à Neuilly, il n'y a pas suffisamment de logements sociaux et qu'on va gronder le maire de Neuilly. Deuxième sujet, il y a ce qu'on appelle les dents creuses. Il y a des centaines de milliers d'hectares disponibles qui sont aujourd'hui où l'État veut faire le malin et devient le vendeur d'espace, etc. En réalité, il faut utiliser massivement pour construire. Deuxième aspect. Et troisième aspect, limiter les recours qui sont un drame national. N'importe qui aujourd'hui peut faire repousser la construction de n'importe quel logement de 4-5 ans. Et à un moment, il faut dire, on se calme, on donne du Lexomil aux gens et éventuellement, on les calme.
Si mon souvenir est bon, j'avais dit dans la loi Elan, qui est la dernière loi qui avait tenté de s'attaquer au sujet du logement, il avait été décidé que celui qui intentait presque par réflexe un recours contre un permis de construire ou un projet de construction était redevable s'il perdait son recours. Et donc avait une responsabilité éventuellement financière s'il était perdant du recours qu'il avait engagé.
Oui, mais tout le monde est perdant dans cette affaire. Peut-être qu'il perd, mais la réalité, c'est qu'on a perdu 5 ans, on a perdu des centaines de milliers. Il nous faut construction de 500 000 logements par an.
Mais bien sûr.
Ce chiffre.
Je vous donne un exemple extraordinaire sur ce que vous disiez par rapport à la responsabilité des maires. Je vais être très concret comme avec mon histoire de Flamanville. Le maire de Villemomble, à proximité de Paris, à une gazette municipale. Il a publié dans sa gazette municipale une carte de sa ville. C'est pas une grosse ville, Villemomble. Et il y a plein de petits points rouges partout. Et la légende est, voici les quelques 640 projets de construction que j'ai réussi à éviter pour notre ville, mes chers administrés. Le voilà qui se glorifiait d'avoir freiné la construction dans sa ville. Ça en dit long, effectivement, sur la perception.
Ça va nous faire un ami de plus.
Ah, mais c'est Marie-Cœur de Roy, sur BFM Business, qui avait été la première à montrer la carte. Elle est édifiante, la carte. Bon, après, c'est vrai qu'il avait été élu sur la promesse qu'on ne construirait plus. On peut dire qu'il est en phase avec ce que les électeurs avaient souhaité. Logement, Lionel Fontanier.
Oui, ben, donc je vais continuer dans cette veine, mais en disant des choses évidemment un tout petit peu différentes pour le plaisir du débat. Je crois qu'il faut réfléchir à ces questions de logement, d'urbanisation, d'occupation de l'espace, avec une vision bien sûr de loger tout le monde de façon décente, et c'est une priorité nationale, mais aussi en le faisant, en ne créant pas des situations telles que les questions de transport, par exemple, domicile, travail, vont devenir insolubles. Si vous pensez régler le problème du logement en construisant des logements à 40 km de Paris, sans RER, sans bus et avec juste des routes nationales ou éventuellement une autoroute bouchée pour y accéder, c'est la mauvaise solution. Ça n'est pas ça qu'il faut faire. Il faut densifier les villes et il faut avoir en tête que l'un des problèmes en France, c'est pas lié simplement au logement, c'est lié en très grande partie aux entrepôts, aux grandes surfaces, etc. C'est le problème d'artificialisation des sols. On artificialise beaucoup trop les sols en France, ce qui a des conséquences en matière de désastres en raison du réchauffement climatique, et ce qui a des conséquences aussi parce que les zones qui sont artificialisées ne peuvent plus être utilisées.
Vous êtes très écolo, Lionel Fontanier. Hein.
Non, je ne suis pas écologiste écologiste. Je suis juste réaliste, c'est-à-dire il y a un certain nombre de réalités qui s'imposent à nous. Et ces réalités, c'est qu'il faut nourrir la population. Pour nourrir la population, il faut de l'espace. Et ensuite, si on veut faire des biocarburants, on nous dit que c'est la solution, on met tous 10% de biocarburant dans notre réservoir de notre petite voiture, ben pour faire ça, ça prend énormément d'espace. Et donc ces espaces sont en compétition avec les espaces utilisés pour l'agriculture qui nourrit la population, pour faire le blé qui va remplacer le blé ukrainien, et sont en compétition aussi avec le logement, avec les zones touristiques. Donc on a vraiment un sujet d'aménagement du territoire.
Donc on construit en hauteur.
Il faut densifier. Donc,
voilà. Le problème pour finir...
Juste un truc sur ce que vous disiez. Encore un autre exemple très concret. Vous avez vu, là, on a eu des chiffres sur les refus de prêts immobiliers. Alors, il y a les choses classiques qui font qu'il y a des refus de prêts immobiliers. Le taux d'usure, le taux d'effort, la hausse des taux, l'inflation, le reste à vivre, bien évidemment. Mais il y a aussi un élément nouveau que les banques regardent pour dire non à un emprunteur. Alors, c'est lui. Quelle est la distance entre votre logement et votre travail ? Ah, je suis désolé, monsieur, il est trop loin. Vous allez avoir une facture de carburant monumentale, voire éventuellement besoin d'une deuxième voiture. Vous n'aurez plus la capacité de rembourser convenablement votre prêt tous les mois. Je vous refuse votre prêt. Et après, on regarde aussi la qualité du logement. Oh, mais dites donc, il faut changer les fenêtres. Le chauffage, il faut tout remettre à plat. Quelle facture de travaux ? Vous risquez d'avoir du mal à rembourser votre prêt immobilier. Je vous dis non, monsieur. C'est, voilà, monde qui change. Hein. Anne-Sophie Alsif, on a 5 minutes à peu près, à peine.
Ouais. Ah, il ne me reste que 5 minutes, donc bon, je vais faire vite. Pour conclure, en effet, sur le logement, le problème aussi, c'est qu'il faut vraiment avoir une pensée globale d'aménagement du territoire. On dit tout ça, en effet, sur il faut densifier les villes, il faut construire en hauteur, etc. Aujourd'hui, on le voit dans beaucoup de secteurs, notamment la logistique, où vous avez énormément d'entrepôts qui sont faits en dehors des villes, qui sont très grand en termes de mètres carrés, qui permettent en effet d'avoir des impôts par rapport à cela, et qui sont vraiment des modèles économiques qui sont développés pour créer de l'emploi dans des territoires où il y a eu de la désindustrialisation. Et donc c'est vrai que ce type d'activité génère de l'emploi et donc permet de retrouver du pouvoir d'achat pour beaucoup de familles, mais en termes de localisation et justement de comment les salariés vont pouvoir venir par rapport à leur logement, il n'y a pas forcément de pensée où sont construits les maisons et les habitations. Et on est, alors qu'on a des ménages qui retrouvent un logement, qui arrivent à retrouver des emplois dans des services après la réindustrialisation, qui repaient la facture énergétique. Donc ce ne sont pas forcément les personnes qui ont les revenus les plus faibles, qui sont vraiment parties du centre de la classe moyenne, et donc du coup, qui paient à chaque fois, les aléas et de la désindustrialisation et de la hausse de l'énergie. Et ça, c'est vrai que c'est ce qu'il faut repenser aussi, à mon sens, parce qu'on a ce genre de plan. Mais quand on est content d'avoir une entreprise comme Amazon qui vient dans votre région et qui va créer des centaines d'emplois, c'est assez difficile de refuser du foncier, de dire non, je veux pas mettre cet entrepôt ici. Donc ça, c'est vrai, des vraies contraintes économiques qu'il faut penser en amont et qui sont vraiment très compliquées s'il n'y a pas une vision globale d'aménagement du territoire.
Je vais arrêter là mes urgences, parce qu'il nous reste 2 minutes. J'aurais voulu parler d'énergie. Je pense que le déni du nucléaire, il y a un moment où il va falloir le mettre de côté et admettre que ce sera forcément présent dans le mix énergétique. Puis on va laisser la dette pour une prochaine fois, n'est-ce pas ? Jean Hervé, 22e rencontre économique d'Aix-en-Provence. Qu'est-ce qui fera quand vous allez rentrer, refermer ces rencontres avec la déclaration finale, que vous vous direz, on a fait un pas en avant, nous sommes allés de l'avant et nous repartons regonflés avec l'idée que c'est possible ?
Notre réunion pendant une heure a été une illustration parfaite.
Je pense.
Parfaite de position qui était position en fait assez convergente, mais
réaliste. Il a raison,
mais avec de véritables constructions intellectuelles. Il faut que le débat reprenne dans notre pays. Il faut que il soit alimenté par, des véritables éléments de réflexion. Et puis qu'on affronte. On a parlé de l'école. On a parlé de logement. On a parlé au fond de tout ce qui aujourd'hui est bloqué. Moi, je suis stupéfait. On termine sur le logement par le fait que, à l'évidence, ça n'est pas une priorité, même dans le discours. Alors que sur l'école, tout le monde dit c'est la priorité, mais personne ne fait rien. Donc, en réalité, cette émission a été l'illustration parfaite de ce qui pourrait rendre, j'allais dire, tous les gens qui ont été ici, qui seront le dimanche soir, avoir le sentiment de ne pas avoir perdu leur temps.
Merci à vous d'avoir été là. On va rendre l'antenne d'ici quelques secondes. 22e rencontre économique d'Aix-en-Provence, où BFM Business est présent toute la journée aujourd'hui et également demain. Je vous assure qu'Emmanuel Le Chypre vous a concocté plusieurs tables rondes avec des acteurs différents. Ça va être passionnant. On va à nouveau évoquer les grandes questions, probablement un peu moins franco-françaises, mais un peu plus globales. La déclaration finale, ce sera avec Jean-Hervé Lorenzi à la mi-journée de dimanche, quelque chose comme ça, je pense.
Avant le déjeuner, c'est très important de bien le préciser.
Merci Lionel Fontanier, c'est votre première participation à cette émission. J'espère que ce n'est pas la dernière.
Avec plaisir.
Faites-moi confiance pour reprendre contact avec vous dès la rentrée. Anne-Sophie, qu'on retrouvera bien évidemment dans cette émission la saison prochaine. BFM Business, donc en direct d'Aix-en-Provence. Nous, on se retrouve pour les experts du 9-10 dès lundi à 9h.